Alors, c'est la dernière étape, on va arriver à l'école. C'est la récré, oui.
C'est Jules Ferry.
C'est Jules Ferry, ah, très bien. On a commencé en demandant le nom de l'école, on finit avec le nom de l'école. Moi, je voulais vous parler d'une construction qui est derrière. Alors, on en a pas mal parlé de ce matériau-là. C'est le même que la tour Eiffel. C'est le même que la tour de l'or blanc. La tour Eiffel du bout des ponts, maintenant, on va l'appeler comme ça. Hein. C'est nous qui l'avons décidé. Hein. Alors, comment s'appelle le matériau très dur? Ah bah tiens,
le métal.
C'est du métal.
Métal.
Derrière, toutes les parties qui sont en métal, elles ont une couleur.
Rouge et vert.
Cette construction, ça s'appelle une halle et elle n'a pas été faite ici. Elle a été faite dans la capitale de la France. Est-ce que vous connaissez le nom de la capitale de la France? On en a parlé déjà. Paris. Cette construction a été faite à Paris par quelqu'un, ou en tout cas sur un modèle d'un grand architecte de Paris qui a fait la tour Eiffel. On reparle
c'est
de la tour
général
Eiffel.
Général Leclerc.
Non, c'est drôle. La tour Eiffel, pourquoi elle s'appelle comme ça? Qui est Eiffel?
La tour Eiffel.
Voilà, Eiffel, c'est le nom du constructeur de la tour Eiffel. Il s'appelait Gustave.
Gustave.
Gustave. Oh, Eiffel.
J'ai déjà vu, moi, Gustave.
Ah, t'as déjà vu Gustave? Alors, Gustave Eiffel a construit la tour Eiffel. Ah oui, hein, il a donné son nom, hein, c'est sympa.
Ah oui, mais c'est long, ça.
Bah oui. Et il a aussi construit cette halle.
Regardez ce qui a été construit dans l'usine.
En fait, on a fait plein de choses dans cette usine. La dernière activité, c'était des presses. Et vous avez des grosses machines que vous avez sans doute déjà vues. Grosses machines de l'autre côté qui permettaient de presser du métal. Et on a fait une autre activité il y a quelques années qui est restée célèbre. Regardez ce qu'on a construit à Amboise.
Les voitures anciennes.
Qu'est-ce que c'est?
Ben là, c'était une usine pour construire ces voitures.
C'était des voitures, il n'y avait pas beaucoup d'exemplaires parce qu'elles coûtaient assez cher. Mais ça s'appelait Facel Vega.
Mais moi, j'étais allée deux fois à Paris.
Et ben voilà, et ben, sachez que ces belles voitures anciennes étaient construites ici à Amboise. Voilà, on a fait plein de belles choses au quartier du Bout des Ponts. Et vous êtes à l'école Jules Ferry du Bout des Ponts. Vous pouvez être fiers de là où vous vivez et là où vous étudiez. Voilà. Voilà, et ben moi je vous remercie. J'ai passé un moment extraordinaire avec vous. Joséphine aussi était ravie d'être avec vous. Voilà, vous pourrez raconter tout ça. Je suis moi très très fière de vos réponses. Et puis aussi de votre façon de vous comporter parce que c'était une belle visite. Voilà, merci beaucoup.
Et bien merci à vous. Je vous montre parce que je pense que voilà.
Qu'est-ce que vous avez pensé de la visite?
Bien, ah, trop bien.
Alors, on a vu quoi?
Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui?
La tour Eiffel, oui.
Qui est-ce qui va me dire ce qu'on a appris aujourd'hui?
Jolie.
Daria? Alors, on n'a pas vu une cathédrale, on a vu quoi?
Une cathédrale, c'est très très grande. On a vu une petite
tour Eiffel. Moi, je n'avais jamais vu.
Église.
C'était les monuments et l'église à l'intérieur.
Les monuments et l'église à l'intérieur. Très bien.
Alors, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Qu'est-ce qu'on a regardé encore?
L'église.
L'église. Et puis
la Loire.
La Loire.
On a vu très pointue, très haute, la
tour
Eiffel du Bout des Ponts, mais elle s'appelle la tour d'or blanc.
La gare.
Et enfin,
et on vient de finir par
la halle, l'usine. Très bien.
Et voilà. Ça, c'est tout ce qu'il y a autour de notre école.
Et votre école, elle a été construite, je crois, en 1953, si mes souvenirs sont bons.
Oui, je crois, oui.
Voilà.
Il y a plein de jolies choses autour de notre école. Quand vous vous promènerez avec vos parents, eh bien, il faudra leur expliquer. Maintenant, c'est vous qui pourrez expliquer.
Ah ouais, vous pourrez faire la visite, c'est trop bien.
Vous pourrez leur montrer la maison avec la statue de la liberté.
C'est ça.
Vous pourrez montrer plein de choses.
Oui, vraiment.
Elle va aller faire son jardin.
Oui, elle va aller faire son jardin. Elle va se reposer un petit peu. Elle va aller rendre les clés aussi parce que faut pas qu'elle oublie. Au revoir.
Au revoir et merci.
Les discrets présentent. Curieuse expression.
Je dirais pas se maquiller parce qu'en ce qui me concerne, je ne me suis pratiquement jamais maquillée depuis que je suis mariée, mais se soigner.
Oui, évidemment, parce que c'est l'essentiel.
Oui, se soigner. Aussi dans le choix des. Enfin, Dans le choix des vêtements, peut-être aussi.
Ah, si, quand même, les vêtements, oui, si, si, quand même.
Ouais, bon.
Il faut être coquette.
Alors, oui,
le choix de coquette,
une certaine coquetterie.
La coquetterie, sans en abuser.
Une coquetterie adaptée à votre âge.
Tempérament, d'abord. C'est surtout votre tempérament, parce que là, c'est.
Parce que vous savez, la coquetterie, souvent, nous sauve moralement.
Ah, bah, absolument. Si on laisse tout tomber, là, faut continuer la coiffure, le maquillage, l'habillement.
Pour certaines personnes, moralement, c'est essentiel.
Oui,
moi, personnellement,
moi aussi, oui, ça.
Je ne suis jamais sortie dans la rue sans être un peu maquillée,
peignée,
habillée.
Ah, j'y suis à peine, parce qu'aujourd'hui, j'étais.
Je vous dirais même, c'est idiot, mais je me peignerai et je me coifferai, enfin, me maquillerai des fois avant de téléphoner. Je suis mieux, moi. Quand je me regarde présentable.
Absolument. Et quand on a eu l'habitude de travailler dans un bureau.
Voilà.
Alors,
voilà.
Attendez, le matin, 5h30, il faut être déjà impeccable.
Alors, ça reste toute la vie.
Je pense.
Essentiel. C'est pas essentiel.
Oui. Moi, je me suis toujours trouvé mieux non maquillée que maquillée.
Ça dépend des goûts. À condition que ce soit pas outrancier, évidemment. Il faut adapter son maquillage à son âge.
Non, mais.
Moi, j'ai besoin d'être maquillée.
Maquillée et coiffée.
Oui,
je dis, c'est une habitude.
Moi,
j'arrive au bureau, fallait être impeccable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut être impeccable
sans ça,
de la tête aux pieds. Sans être maquillée.
Oui, me disait ma mère, il faut que je me mette à ça. Je ne plaît pas se mettre de rouge à joues, se mettait de la santé.
Radioactive.
Toute la vie locale dans une radio. Médecine de grand-mère. Une émission pour une santé saine et naturelle. Par et avec Jean-Paul Hardy, maraîcher et praticien en médecine naturelle.
Bonjour à tous et bienvenue dans Astuces de grand-mère. Avec Jean-Paul Hardy, maraîcher, et Brigitte Morin. Tous deux expliquant la santé naturelle. Chaque semaine, nous vous donnons des astuces pour rester en bonne santé. Et aujourd'hui, nous allons vous parler...
De l'eau de mer. J'avoue que ma grand-mère m'en a parlé un petit peu, mais pas beaucoup. Et puis, on n'habitait pas au bord de la mer. Hein. On ne sommes pas des marins quand on est bosserons. Mais elle m'a ouvert les yeux pour ce qui était naturel. Et puis, l'eau de mer, il y a beaucoup de propriétés que je ne croyais pas d'ailleurs, il faut avouer. Alors, tu veux bien nous en parler un petit peu ?
Oh, j'ai grand plaisir, parce que l'eau de mer, c'est vraiment un remède naturel et qu'on peut ajuster à beaucoup de problèmes de santé. Il suffit de 20 minutes de baignade chaque jour. Ça va permettre de régénérer en profondeur l'organisme. Donc cet été, si vous pouvez encore, profitez-en. Ça nous permet de retrouver notre vitalité.
Alors ça, il y a une raison à ça. Tu vas nous expliquer.
C'est un remède antique, global. On n'invente rien. Hein. Ça, l'eau de mer a toujours été sollicitée. Hein. Ça a sollicité l'intérêt des médecins et des scientifiques depuis Hippocrate, déjà, on en parlait.
Les vacanciers aussi, j'ai l'impression. Hein. On ne sait pas pourquoi, si c'était au niveau santé ou si c'était au niveau de pouvoir passer des bonnes vacances à la plage. Ou alors les deux.
Alors, Hippocrate a été le premier à parler de bains de mer thérapeutiques. Donc les Grecs et les Romains, ils utilisaient l'eau de mer pour soigner toutes les affections de peau, les affections dermatologiques, les maux de dos, les pathologies articulaires et pulmonaires, les spondylarthrites ankylosantes. Maintenant, on a des centres magnifiques de thalassothérapie, de balnéothérapie, de massage, qui par les actifs marins, améliorer donc notre problème de santé. Et ça joue sur notre santé mentale, à bien savoir aussi, non seulement la santé physique, mais la santé mentale. Quand on revient d'un bon été passé à la mer, on est requinqué.
Je sens que c'est très reminéralisant, là.
Ah oui, il suffit de se baigner, de faire des longues balades, les pieds dans l'eau, de se faire des automassages.
Est connecté à la nature, à la terre.
C'est vraiment une cure de vitalité, parce que pourquoi l'eau de mer, elle est reminéralisante, elle contient tout. Elle est détoxifiante, elle est décongestionnante, elle est antibactérienne. On avait justement un ami hier encore qui nous disait qu'il était patraque. Eh bien, il a fait une cure d'eau de mer, en fait. Et puis, il s'est nettoyé l'estomac et tout est revenu dans l'ordre. Voilà, donc il faut savoir qu'en fait, elle nous apporte du zinc, du potassium. Elle régule notre pH de notre organisme, donc elle rééquilibre. Donc, couplé à l'effet du soleil quand on va à la plage, l'eau de mer, c'est une véritable potion magique. Hein. On sort là vraiment régénéré en profondeur.
Il y a l'iode aussi. Hein.
Il y a l'iode, bien sûr. On voit bien la différence entre l'Atlantique et puis la mer Méditerranée. Hein, quand on a appris l'air iodé, je vous assure qu'en Atlantique, soit on dort bien, soit alors on ne dort pas du tout, tellement on est excité par l'air iodé. Voilà. Donc ça permet en fait de retrouver ce bien-être, et on ne va plus se jeter sur les sucreries qui sont abominables en fait, parce qu'on devient addict.
Oui, c'est vrai, ça on a remarqué que quand on est reminéralisé, eh bien on est moins addict. Et quand quelqu'un est addict, on dit toujours, bon, on va déjà reminéraliser, puis après on verra pour la cigarette, hein, ou la drogue ou l'alcool.
Voilà, donc les aérosols marins combien le long de la côte atlantique, bretonne, eh bien, se sont installés des grands centres héliotropes pour faire du bien aux personnes, avec des aérosols marins, des gouttes d'eau de mer générées par les vagues et les courants que l'on va prendre, voilà, et qu'on va essayer de faire que les voies aériennes des personnes qui ont des bronchites, des pneumonies, hein, puissent en fait profiter de ça et passer un meilleur hiver, parce que elles sont atteintes d'allergies respiratoires et de tas de bronchites à répétition.
Donc ça nous nourrit, hein?
Ça nourrit, oui, bien sûr, parce que ça apporte tout simplement des oligo-éléments et des minéraux, hein, et ça, en plus de la vitamine D, du soleil, de là-bas, c'est très bénéfique. C'est bénéfique pour nos articulations aussi.
Minéraux naturels, et j'ajoute, non chauffés, parce que les minéraux, on dit, ah oui, j'ai pris tel minéraux, tel truc, tel truc. Mais oui, mais si c'est chauffé, pour nous, c'est mort. Tandis que là, c'est vivant.
Voilà, on conseille d'aller marcher quotidiennement au bord de mer pendant un quart d'heure. Voilà, ça va éliminer en fait nos déchets, nos toxines, et nos articulations vont être beaucoup plus souples. On va se sentir beaucoup moins rigide, beaucoup plus de facilité de mouvement. D'ailleurs, plein de clubs et tout ça font de la gymnastique au bord de la mer. Hein, sur le sable au bord de la mer, ça permet de cicatriser les blessures, les fractures aussi des personnes âgées. Bon, ça va se remettre beaucoup plus vite grâce à l'eau de mer. Il y a des bienfaits sur la peau, mais inimaginables. Hein. On arrive à traiter en fait l'eczéma, l'herpès, l'urticaire, l'acné, le psoriasis, tout ça parce que le système immunitaire, quand il est emballé, si on lui donne des anti-inflammatoires, ça va marcher un moment, mais ça va revenir. Alors que si on fait une bonne cure, en fait, prolongée à la mer, eh bien, on va s'en sentir bien, tout le corps, tout le système immunitaire va se remettre en place, et ça va être un effet beaucoup plus prolongé. Donc, je conseille vraiment la brise marine, cette brise marine qui va nous faire retrouver, en fait, la sérénité. Et quand on a la sérénité, on retrouve le sommeil beaucoup mieux. Voilà, donc ça stimule, en fait, la production d'hormones, cette brise marine, on le sent très bien, hein. On revient, mais vraiment en forme. T'as passé tes vacances où ? À la plage. À la plage, au bord de mer, sous le soleil, avec des bains de mer. On a vraiment fait un bon rééquilibrage, en fait, du mental et du physique. Alors, certaines personnes nous disent, est-ce qu'on peut boire de l'eau de mer ? On entend parler du sérum de Quinton, isotonique, hypertonique. Voilà, c'est excellent, hein ? C'est excellent à prendre. Mais bon, de là, boire l'eau de mer... Ça dépend à quel endroit vous êtes déjà. Hein, si vous êtes dans un endroit complètement isolé, bien loin des bateaux, bien loin de la pollution, hein, et qu'on prend en nageant une bonne goulée d'eau de mer, ça ne peut que faire du bien. Mais évidemment, si on est dans un estuaire pollué, là, c'est autre chose. Mais sachez et retenez bien que l'eau de Quinton, que le sérum de mer est excellent pour notre organisme.
Oui, derrière de ce que tu es en train de dire aussi, il y a le vortex. C'est-à-dire que c'est l'eau qui tourne, hein, et en tournant, elle attrape, si on peut appeler ça comme ça, des propriétés. C'est encore mieux, quoi, de l'eau de Quinton, comme tu parles là.
Voilà, chers amis, bien, profitez-en, profitez de l'eau de mer, n'ayez pas peur, hein, d'aller vraiment à la plage prendre un bon bol d'air, un bon bol de minéraux, d'iode. Hein, et l'organisme saura quoi en faire pour se retrouver en bon équilibrage.
Eh bien, moi, je vais terminer par une expérience. C'est même plus que d'expérience. C'est un chien, et puis chacun pourra en tirer ce qu'il veut comme conclusion. Eh bien, c'est un chien qui était moribond, hein, carrément moribond, et on lui a enlevé son sang et on lui a mis de l'eau de mer après. Deux jours après, il était sur pied. Et puis, 5 ans après, il est mort, mais il est mort étant écrasé. Ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Voilà. Le sang humain est de la même composition que de l'eau de mer, ou très voisin tout au moins.
Isotonique. Hein.
Alors, chers amis, à bientôt. Merci à l'équipe de la radio. Merci, docteur Brigitte. Et vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook. On fait Radioactive 93 et 94,7 FM. Et on déroule jusque Astuces de santé de grand-mère. Et là, on retrouve nos émissions. À bientôt et au revoir.
Médecine de grand-mère, une émission pour une santé saine et naturelle. Par et avec Jean-Paul Hardy, maraîcher et praticien en médecine naturelle.
N'oubliez pas de toujours consulter un médecin ou un autre professionnel de santé compétent lorsque vous avez besoin de renseignements et de conseils de nature médicale.
Radioactive.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Regard Pluriel. Alors pour cette nouvelle édition, j'ai choisi de lui donner en fait une nouvelle orientation cette année, cette nouvelle année, à savoir présenter la psychogénéalogie et la généalogie, pas n'importe quelle généalogie, celle de Claire Marty, donc généalogiste, qui est donc mon invitée du jour. Bonjour Claire.
Bonjour Katia.
Alors écoute, comme la dernière fois, puisque tu étais mon invitée de l'émission précédente, je voulais te remercier d'animer cette émission avec moi, à mes côtés. Depuis qu'on s'est rencontrés, on n'avait aucun doute là-dessus, mais c'est vrai qu'on s'est très rapidement dit que nos deux pratiques étaient complémentaires.
Oui, tout à fait.
Et que du coup, on s'est dit, il faut qu'on en fasse quelque chose, il faut qu'on poursuive ce premier élan. Et donc, du coup, puisqu'on avait des thématiques communes, on a choisi d'aborder en fait aujourd'hui...
Les prénoms.
Ok, donc les prénoms. Et Claire, c'est toi qui vas commencer, en donnant l'étymologie peut-être du mot prénom.
Oui. Alors, donc le prénom... En fait, donc d'un point de vue étymologique, comme on dit, c'est tiré du latin praenomenum, et ça désigne dans la Rome antique le nom qui précède le nom de famille et qui permet donc de distinguer les individus.
Alors c'est vrai que c'est ce qui nous fait dire que le prénom est quand même très important en termes d'individuation, c'est-à-dire que c'est ce qui nous permet de nous distinguer des autres membres de la famille. Moi, c'est vrai qu'en psychogénéalogie, pour certains et certaines de mes consultantes, j'étais amenée à rencontrer des personnes qui portaient le même prénom que leurs parents, du même sexe. Parfois même, ce prénom était masculinisé ou féminisé. Et je me suis aperçue que pour ces personnes, alors évidemment, je ne vais parler que des personnes pour lesquelles ça a posé problème, parce que sinon, ils ne viennent pas me voir, évidemment. Mais du coup, je me dis, c'est quand même pas anecdotique de récupérer donc le prénom de son parent. Il y a forcément en fait une injonction derrière, celle notamment de, je ne sais pas, vis une meilleure vie que la mienne, ne m'oublie pas. Voilà. Cet enfant devenu adulte, il pourrait osciller en fait entre vivre sa propre vie et celle de son aïeul. C'est ce que je constate par rapport à ce que tu viens donc de dire. Bref, après cette petite aparté. Claire, est-ce que tu peux nous conter l'histoire du prénom depuis son origine? Parce que je pense que ça va intéresser nos auditeurs et auditrices.
Alors, tout simplement, nous, ce qu'on connaît de l'histoire du prénom historiquement, donc ça remonte assez loin, c'est-à-dire aux alentours du 5e siècle, après les invasions germaniques et puis l'effondrement de l'Empire romain. Donc, les individus avaient avant plusieurs prénoms, un nom de famille, et ils sont progressivement passés à un seul prénom, un seul nom qui était leur nom de baptême, en fait. Mmh. Voilà.
Ça, ce nom de baptême, c'était parce que du coup, il fallait bien les distinguer de tous les autres, c'était ça? Qu'est-ce qui a fait qu'on est parti sur ce nom de baptême?
Alors, le baptême existe depuis Rome, tout simplement. Mmh. Il fallait effectivement individualiser les personnes, tout simplement. Il fallait leur donner un prénom pour les différencier. Mmh. Et si on va plus loin, le baptême, et donc le fait de donner un prénom, ça allait encore beaucoup plus loin. C'était mettre l'enfant sous la protection du parrain, en l'occurrence, puisqu'à ce moment-là, c'était le parrain qui donnait ce nom. Et donc, le parrain pouvait porter le nom d'un saint, tout simplement. Donc, on remettait l'enfant sous la protection de ce saint. Ça pouvait être un saint local, un saint régional, peu importe. Le but du prénom, donc, c'était de faire entrer l'enfant, le nouveau-né, dans la communauté, particulièrement la communauté religieuse, et de le placer donc, sous la protection du parrain.
D'accord. Donc, du coup, d'où le fait que le baptême avait souvent lieu très peu de temps après la naissance. Enfin, très souvent, c'était dans les
heures qui suivaient.
Dans les jours qui suivaient. Ok. Est-ce que donc du coup, il y a des prénoms évidemment qui reviennent. Est-ce que tu peux donner des exemples de ces prénoms là qui sont que l'on retrouvait et qu'on retrouve encore aujourd'hui parce que par ricochet, par transmission, on les retrouve. De nos jours.
Voilà, si on part sur les prénoms latins, donc qui ont été francisés depuis le temps, il y a eu en fait très très peu de prénoms, je dirais une dizaine de prénoms masculins, une dizaine de prénoms féminins qui nommaient à peu près 30 à 50% des populations à l'époque. Donc c'est Jean, c'est Pierre, François, Louis, pour les hommes. Et pour les femmes, on retrouvait toujours prioritairement Marie, Jeanne, Anne, Françoise ou encore Catherine.
Ok, donc il n'y avait pas beaucoup d'originalité dans en fait le choix des prénoms en fait à cette époque. Dans les recherches que tu as fait, est-ce que tu as retrouvé des prénoms qui sortaient justement de ce schéma-là?
Alors, donc ce schéma s'explique déjà historiquement parce que c'est l'Église catholique qui a imposé. Avec le Concile de Trente, dans les années 1435, il a carrément imposé de donner aux nouveau-nés des noms de saints. Donc on retrouvait toujours ces noms de saints. Okay. Mais par contre, après quelques temps, donc il y a eu quelques prénoms comme Julien ou Rose qui sont apparus, ce qui était vers la fin 12e, je crois. On s'est un petit peu éloigné de la tradition, mais malgré tout, les prénoms des saints restaient imposés jusqu'à la Révolution. Donc il a fallu attendre la Révolution pour que les prénoms un peu plus modernes, on va dire, ou plus originaux, fassent leur apparition.
Et avec également les deuxième et troisième prénoms.
Alors ça, c'est pareil, hein, ça a été une évolution donc par rapport à la tradition. On était quelque part, on vivait toujours dans la chrétienté, obligé, on va dire, de respecter les coutumes chrétiennes, mais il y a eu aussi l'évolution de la démographie, hein. Il y a eu beaucoup plus de gens, de populations. Et là, c'est devenu compliqué. Donc, tout le monde s'appelait Jean dans le village, Jean ou Louis, Jean fils de Jean, qui était aussi fils de Jean. Il a bien fallu, à un moment, ouvrir un peu, individualiser un peu plus les gens, donc donner un deuxième ou un troisième prénom.
Ok. Et alors, tout le monde ne porte pas de deuxième et troisième prénom, mais bon, on verra que quand même ces deuxième et troisième prénoms relèvent plutôt en fin de compte de l'aspect affectif et tu dis, enfin, mais peut-être oui, affectif parce que moi c'est souvent ça en fait, mais on verra par la suite ce qu'il en est réellement. L'attribution, en fin de compte, donc, d'un prénom, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que ce choix revient généralement, en fait, aux parents. Et c'est d'ailleurs pour eux la première occasion d'exercer leur autorité sur la progéniture et de casser éventuellement un peu, enfin, un schéma familial ou pas, ou de le poursuivre, de le répéter. Mais ça n'a pas toujours, en fait, été le cas. On est d'accord, Claire? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus?
Alors, je dirais qu'à l'époque, il y avait une certaine, règle qui était suivie. Quand les parents donnaient le nom à leurs enfants, le premier-né recevait le prénom du père ou de la mère, du père si c'était un enfant, et si c'était une fille, il recevait le prénom de la mère. Le cadet, recevait le prénom du grand-père ou de la grand-mère maternelle. Et pour qu'il n'y ait pas de jaloux, on va dire, il fallait toujours une parité, dans les lignées. Le troisième enfant allait donc recevoir le prénom du grand-père ou de la grand-mère maternelle à ce moment-là. Et c'est seulement après qu'il y avait un peu plus de largesse au niveau de... Parce qu'il y avait quand même rarement que trois enfants dans une famille. Donc,
surtout à l'époque.
Ceux d'après donc, pouvaient porter le prénom du parrain, pouvaient porter le prénom d'un ami. Donc, il y avait à ce moment-là un peu plus de largesse au niveau du prénom qui était toléré. Quoi.
Donc, en fait, quand ce n'est pas... Donc, avant que ce soit donc, les parents qui choisissent donc, le prénom de l'enfant, c'était donc le parrain et la marraine qui choisissaient.
Oui, en fait, le parrain et la marraine se substituent complètement aux parents. C'était eux qui baptisaient l'enfant à l'église, hein, c'était pas les parents. Et donc ils leur attribuaient assez souvent leur prénom. C'était une façon de créer un lien avec l'enfant, non seulement affectif, mais un lien spirituel, parce que l'église va passer son temps aussi à rappeler la fonction religieuse du baptême. Et le parrain, sous-entendu la marraine également, avait pour obligation d'instruire l'enfant dans le monde de la chrétienté, de le faire vivre selon les préceptes de l'Église. Et donc c'était un rôle très très important qu'il ne fallait pas négliger. Hein. C'était...
Qu'on a tendance en fait à oublier, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que la fonction, même si quand même, on le dit encore aujourd'hui, que ça ne se fait pas de refuser... En fait, la proposition de devenir,
parrain
ou marraine. Mais c'est vrai qu'on est loin, finalement, de ces injonctions religieuses de l'époque.
Voilà l'importance que ça a pu avoir. Ça a été jusqu'à ce qu'on enterre un parrain et une marraine qui avaient refusé un parrainage, on le traitait en hérétique. On a vu des obsèques se faire. Par exemple, il y a une région où on leur croisait les mains dans le dos. Contrairement au bon catholique où on lui croisait les mains sur le ventre. C'était vraiment ça devenait des parias.
Donc du coup se créer en fait un lien, il se substituait aux parents en fait, surtout au cas de, enfin dans le suite au décès donc des parents, hein, c'était surtout ça en fait à une époque. Les parrains, marraines étaient choisis comment, en fait, à ce moment-là, ouais.
Principalement dans la parenté toute proche. Donc, on demandait d'abord aux grands-parents, aux oncles, aux tantes, aux cousines. Parfois, quand on avait fait le tour, ben, on demandait aux frères et aux sœurs plus âgés, en fait, de devenir parrain de leur petit frère ou de leur petite sœur. Et donc... Une fois encore, comme il y avait beaucoup d'enfants, une fois qu'on avait dépassé le stade de la famille, épuisé la famille, voilà, on allait chercher un peu plus loin. Alors, en général, ce qui était très recherché, c'était les parrains un petit peu prestigieux. Donc, le notable de la famille, des personnalités, ou voir ceux qui avaient un peu d'argent. Bon, ça avait l'avantage pour la famille de créer un certain tissu, enfin, d'enrichir leur tissu social au sein de la communauté aussi.
D'accord. Et ça, c'était... parfaitement accepté de la part du parrain et de la marraine. Alors, parce que le statut social étant différent...
Alors, c'était de toute façon, quelque part, on l'a dit tout à l'heure, un parrainage ne se refusait pas.
Ouais.
Après, il y a eu une règle comme quoi, enfin une règle édictée par l'Église, comme quoi on devait s'en tenir à peu près à trois parrainages par famille.
Oui.
En même temps, les parrains refusaient rarement parce que ça aussi, chaque parrainage rachetait un de leurs péchés. Donc...
On a oublié tout ça, hein, mais ouais. Bon.
Voilà.
Est-ce qu'il y avait d'autres... comment je vais dire ? Est-ce qu'il y avait d'autres transmissions par rapport en fait à un prénom ? C'est-à-dire que de quoi s'inspirait-on en fait en dehors du parrain et de la marraine, quoi ? Est-ce que tu as des exemples ? Je sais pas, par exemple, si je parle de Vincent Van Gogh, il y avait des prénoms que l'on redonnait en fait après un enfant qui était décédé précocement.
Alors oui, il y a eu le phénomène de, comment dire, de continuité de la lignée, c'est-à-dire, il était important parfois pour certaines familles de redonner le prénom de l'enfant disparu, de l'enfant qui devait naître, au prochain. Un peu comme si, ben, comme s'il mourait pas, comme si on le maintenait dans la famille. Donc il était fréquent que si l'aîné s'appelait Pierre, qu'il mourait, eh bien le deuxième qui allait naître s'appellerait Pierre également.
Ouais, donc c'est vrai qu'on a les deux grands cas de figure, c'est donc Vincent Van Gogh et puis Salvador Dali. Donc ça les a rendus, en fait, enfin Vincent Van Gogh surtout, c'était extrêmement compliqué. Ça veut dire aussi que c'est une façon de remplacer ce frère ou cette sœur qui est décédée précocement. En fait, c'est une manière de se dire. Il y en a un qui est parti, mais du coup, on essaye
de combler le vide.
Bon, ce qu'on appelle, nous, en fait, en psychogénéalogie, un enfant de remplacement, c'est pas toujours facile parce qu'il y a des attentes quand même particulières par rapport à cet enfant-là. Mais du coup, c'est super intéressant. Ça, c'était encore valable jusqu'à récemment. Moi, j'ai l'impression que oui. Mais...
Alors, c'était très très fréquent, entre le Moyen-Âge et le 18e siècle au moins, peut-être un peu plus loin. Après, ça se vérifie moins au niveau généalogique. Je dirais que dans ce cas, le prénom va plutôt réapparaître, pas dans le premier prénom, mais dans un des, comme il y aura plusieurs prénoms, dans un des prénoms, le deuxième, le troisième ou le quatrième.
D'accord, mais pas nécessairement pour le premier, quoi.
Non.
Ok, donc en fait, d'un point de vue généalogique, quelles sont, Claire, les fonctions premières d'un prénom ?
Alors la fonction première, c'est évidemment, c'est un marqueur identitaire, donc c'est pour marquer l'individualité de la personne.
La retrouver pour éviter qu'il y ait des confusions en fait avec un autre. C'était l'occasion, tu l'as dit tout à l'heure en fait aussi, c'était d'introduire en fait le nouveau-né, c'était ça cette fonction-là.
Voilà, le placer, enfin ce qu'on disait, l'introduire dans la communauté et le placer toujours sous la protection d'un saint.
Donc tu l'as dit, on choisissait les prénoms en fait en fonction de la place dans la fratrie. J'imagine que l'attribution d'un même prénom sur plusieurs générations donc, peut rendre la tâche plus complexe donc, pour un généalogiste ou une généalogiste comme toi. Est-ce que tu peux nous dire comment et pourquoi ça peut être entravant pour tes recherches en fait ?
Déjà, bon, pour une question évidente, c'est que donc il faut pouvoir identifier la bonne personne quand on a des homonymes, en particulier entre père et fils, ou entre plusieurs enfants qui vont porter le même nom et le même prénom. Donc ça, après, il faut se fier à l'âge, se fier éventuellement aux professions pour retrouver. Il y a le généalogiste qui débute, par exemple, qui va se retrouver souvent confronté à ce problème-là quand il va voir les recensements. Parce que dans les recensements, l'état civil n'était pas figé. Donc on se présentait avec son prénom usuel et non son prénom de baptême. Et ils étaient rarement pareils. Particulièrement quand Jean va être le fils de Jean, le fils Jean ne va pas se faire appeler comme son père. Donc il va choisir un autre de ses prénoms. Et à ce moment-là, on retrouvera Jules, par exemple. Et donc, quand on n'est pas habitué en généalogie, on se demande pourquoi on retrouve un certain Jules dans le recensement et pas Jean. Voilà.
Est-ce que c'est la seule raison pour laquelle... Alors, je ne sais pas si tu peux répondre en fait à cette question, hein, mais est-ce que c'est la seule raison pour laquelle un prénom... on appelle quelqu'un par un prénom usuel et non par son prénom de baptême. Est-ce que c'est parce que son père s'appelle donc comme lui ? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres raisons pour qu'on utilise en fait un prénom usuel ?
Alors il y a certainement d'autres raisons. J'ai trouvé ce cas plusieurs fois. Par contre, donc la raison la plus évidente, ça sera toujours qu'il y a une homonymie dans la famille. On peut supposer, puisque je n'ai pas eu le temps de vérifier mes théories, que il y avait un intérêt à porter le prénom de quelqu'un qui nous était cher ou qui nous a marqué. Et à ce moment-là, comme on pouvait plus ou moins se permettre de se faire appeler comme on voulait, puisqu'il n'y avait pas de carte d'identité et tout ça, eh bien, ça pouvait être important pour un individu de porter le prénom de quelqu'un d'autre.
D'accord. Et comment... ouais, après, bon, c'est vrai que j'imagine que c'est selon les familles, mais c'est vrai qu'on ne peut pas, en fait, appeler deux personnes par le même prénom dans un même foyer. Enfin, ça semble complètement... aujourd'hui, on ne se voit pas dire Jean, alors qu'il y en a quatre, en fait, dans la famille. Enfin, je veux dire, sans savoir à qui s'adresser. Ça nous semble, en fait, plutôt logique. Et tu as évoqué, donc, les difficultés, voilà, que tu pouvais rencontrer en tant que généalogiste, quand des personnes portaient, donc, le même prénom et le même patronyme sur plusieurs générations, mais est-ce que cela peut être facilitant ?
Ah oui, tout à fait. On peut voir ça dans le sens inverse. Par exemple, si je cherche, on va dire un exemple concret, mon ancêtre s'appelle Louis Minier. Bon, il est né le 4 octobre 1766 à Montoux-sur-Cher. Il est fils de Charles Minier et de Catherine Thion. Donc, moi, je vais chercher Louis Minier, donc je vais chercher aussi le mariage de ses parents que j'ai estimé entre 1764 et 1766. Donc 1766 parce que c'est la date de naissance de Louis.
Oui.
Donc comme il est dit enfant légitime, je sais que les parents sont déjà mariés.
Oui.
Eh bien, comme on avait tendance à donner le prénom de l'aîné au premier-né, eh bien, je vais chercher, je vais remonter dans le registre jusqu'à retrouver un Charles Minier. Si j'en trouve un, je vais me dire, c'est certainement le premier enfant ou une Catherine Minier. Et effectivement, la plupart du temps, ça se vérifie, on retrouve l'acte de mariage des parents juste après.
D'accord. Donc, ça, c'est l'aspect, en fait, donc, facilitateur. Qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre, en fait, sur les prénoms ? C'est vrai que c'est intéressant de pouvoir remonter de manière, en fait, historique. Qu'est-ce que tu peux dire ? Enfin...
Alors, on peut dire beaucoup de choses sur les prénoms. Donc, en fait, ils nous indiquent beaucoup de choses, les prénoms. Ça peut être un indicateur générationnel. Donc, par exemple, quand aujourd'hui, on entend quelqu'un qui porte le prénom Gertrude ou Anselme, on se dit, cette personne a vécu à une certaine époque. Bon, évidemment, il faut nuancer ça avec le retour à la mode des anciens prénoms, parce que tout dépendra des époques à laquelle on cherche ça. Il y a eu, par exemple, quelque chose des fantaisies à la Révolution. On trouvait des prénoms très, très particuliers, comme Marat, comme Liberté. Donc ça, c'était vraiment des prénoms typiquement... Bon, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré quelques temps à la Révolution. Mais ça nous donne une indication de la période à laquelle a vécu la personne. Ça peut être aussi un indicateur géographique. Donc, par exemple, quand on retrouve des prénoms bretons à l'autre bout de la France ou pas, on peut se dire, peut-être que l'origine de la famille, si on la cherche, il faudra aller la chercher en Bretagne et non à l'autre bout de la France. Donc, il y a des prénoms très typiques, bretons, bourguignons, occitans, enfin, peu importe. On a aussi des endroits où il y avait des saints locaux et on trouve particulièrement représentés certains prénoms comme Marius en Provence ou Léonard dans le Limousin. C'était vraiment une façon de se mettre sous la protection du saint local.
D'accord. Et donc, ce qui permet de trouver donc, l'origine géographique natale, en tout cas,
alors,
de
la
personne.
Alors, ça permet souvent de localiser. Il y a, par exemple, un prénom qui est extrêmement parlant et qui est très typique d'un seul endroit, en fait, de la paroisse de Neuilly-Saint-Front dans l'Aisne, le prénom Frontenette. Il n'y a que là qu'on le trouvera. Mais on se dit que si on le trouve, alors là, forcément, on connaît l'origine de la personne.
Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs, en fin de compte, par rapport au prénom, justement, là, en dehors de la géographie?
Alors oui, un indicateur social dans le sens où il y avait certains prénoms comme Eudes, Hugues, enfin des prénoms Arthur, c'était vraiment porté plus particulièrement par la noblesse ou la bourgeoisie. C'est pas des prénoms qu'on va retrouver, j'ose dire, le petit peuple, les paysans, qui eux ont gardé des prénoms traditionnels. Ils s'appelaient Martin, ils s'appelaient Jean,
Pierre, enfin oui.
Donc ça permettait en fait dans les grandes familles aussi de... Alors, non seulement à travers le nom, mais aussi à travers le prénom, de transmettre, continuité d'un lignage bourgeois, quoi.
Et du coup, il y a alors, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres en fait indicateurs? Est-ce qu'il y en a? Enfin, est-ce que tu pourrais nous en citer d'autres?
Un qui est évident, et surtout de nos jours avec tout le brassage qui existe partout des populations, c'est l'indicateur de nationalité ou de religion. Là, je ne vais pas rentrer dans les prénoms, ça paraît évident. Prénom italien, prénom juif, prénom... Voilà.
Alors, c'est vrai qu'on aurait en fait beaucoup de choses à dire sur la signification du prénom. D'ailleurs, on s'interroge sur... proposer en fait une autre émission sur cette signification. En fait, voilà, on y réfléchit. En tout cas, on parlera très certainement et très vraisemblablement en fait du patronyme, puisque là, je pense que là encore, on aura plein de choses en fait à dire.
Tout à fait.
Donc, ça sera la suite du prénom. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci encore à toi, Claire, pour ta participation et celles à venir. Merci également à Vincent, qui était donc à la technique. Et je vous dis à bientôt.
Radioactive.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le MAG. S'il est une chose dont on se régale sur Radioactive, c'est bien d'ouvrir notre micro aux plus petits. Aujourd'hui, je vous emmène donc en immersion dans la classe de maternelle de l'école Jules Ferry d'Amboise que nous avons accompagnée en sortie pour découvrir, avec les doudous en poche, le quartier du Bout des Ponts. Une promenade aussi ludique que pédagogique, guidée par Lauriane Kell, responsable du Pays d'Art et d'Histoire, animatrice patrimoine et architecture au Pays Loire-Touraine, qui, elle-même accompagnée de son doudou Joséphine, a expliqué aux enfants l'histoire de leur quartier. Un parcours au départ de l'église Notre-Dame du Bout des Ponts, que les enfants ont eu le privilège de visiter, une observation de la Tour d'Or Blanc, la découverte de l'histoire de la gare, mais aussi de maisons aux façades atypiques du quartier, jusqu'au hangar à charpente métallique signé Gustave Eiffel. Nos petits explorateurs ont été fascinés par les trésors révélés à leurs yeux. Partons ensemble pour ce périple amboisien avec les doudous.
Elle a plein de choses à vous dire. Elle a des questions à vous poser. Elle adore se promener. Aujourd'hui, le soleil, il est un peu caché, dis donc. Parce que Joséphine, elle a besoin de soleil pour faire pousser ses plantes dans son jardin. Tout le monde a besoin de soleil.
Bah oui.
Bah oui, hein.
C'est parce qu'à la météo, ils ont dit qu'il
n'avait
pas de soleil.
Oh, bah alors ça, on aurait pu le commander, le soleil. Mais on n'a pas le soleil, mais on a les doudous avec nous. Parce qu'eux aussi, ils vont faire la visite. Eux aussi, ils vont apprendre des choses sur le quartier. Comment s'appelle ce quartier? Je l'ai dit avant de partir.
En plastique.
Non. Le bout des...
Oui.
Ponts. Ah, ben, des ponts, ça tombe bien. Oh, il y en a un devant nous à côté, regardez.
Ah oui, il y en a un devant nous là-bas. Ouais, mais il est trop loin.
Il est loin. Alors, pourquoi d'après vous, on a appelé ce quartier le bout des ponts, justement? À quoi ça sert un pont?
À passer.
À passer de l'autre côté. Parce que qu'est-ce qui est derrière moi? Est-ce que vous savez ce qui coule derrière?
La loi.
La loi. Parfait.
Il y a des ponts pour que les voitures tombent dans l'eau.
Ah bah oui, alors pour pas que les voitures tombent dans l'eau, mais pour pas que nous, on tombe dans l'eau aussi. Hein. Parce qu'on va pas nager pour traverser la Loire quand même. On n'a pas de bouée, de brassard.
On n'a pas de maillot de bain.
Alors, avant de reparler de la Loire, je vous ai pas demandé quand même qui était avec nous là. On a plein de doudous. Est-ce qu'il y en a certains qui peuvent aller dans la Loire?
Le canard, oui.
Est-ce qu'il y en a qui nagent parmi les doudous?
Oui.
Ah, montrez-moi ceux qui peuvent aller dans l'eau. Ah, on a ici deux jolis dauphins. Un bleu, un rose. Et j'ai... Comment ça s'appelle ça?
Un
hippocampe. On a trois doudous qui peuvent aller dans l'eau.
Et il y a même
un canard. Ah bah alors là, celui-là... Je suis sûre qu'il y en a en bas, là, des canards.
Les ours polaires, j'en ai vu un, moi.
Ah, les ours polaires peuvent aussi aller au bord de l'eau, c'est vrai.
Tu peux aller au bord de l'eau, alors.
Ouais, c'est vrai. Les ours polaires peuvent aussi aller au bord de l'eau, mais plutôt sur la banquise. Les chouettes de neige aussi, elles peuvent, oui. Ah, les souris, tu crois qu'elles nagent dans l'eau?
Non.
Qui a un animal qui n'existe pas? Ah, c'est un petit ours, ça existe. Un zèbre, un lapin. Je vois des souris. Je vois un chien, petite dalmatien. Est-ce qu'il n'y a pas un animal parmi vous, un intrus qui n'existe pas, qui est bleu? Ah, c'est sûr, il n'existe pas dans la vie. Hein. J'ai jamais vu en vrai, hein, parce que si je le vois en vrai, j'ai trop peur.
Qui n'existe pas en vrai.
Il a beaucoup trop de bras, ce doudou-là. C'est Stitch. Bon, c'est rigolo parce que c'est le doudou de ma grande fille. Voilà. Donc on a fait la présentation des doudous. Joséphine, elle vous a dit que elle aimait se promener en bord de Loire. Mais en fait, la Loire, ça sert à quoi? Pourquoi est-ce qu'on s'est mis à construire des maisons ici à côté de la Loire?
Pour regarder la Loire.
Ça, c'est sympa. Pour regarder la Loire, c'est beau. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre sur les rivières? Oui, des bateaux. Parce qu'autrefois, il y a très longtemps, eh bien, on se déplaçait en bateau sur la Loire. Alors, est-ce que Joséphine, alors, à part ramener des petites images pour vous parler de la Loire et des bateaux? Une très, très vieille image. C'est un dessin. C'est un dessin très, 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 très vieux. Qu'est-ce qu'on voit sur ce dessin? Plein de petites choses ici, partout, partout. Comment ça s'appelle, tout ça?
Des maisons.
Des maisons. Eh oui. Vous les voyez? Alors, il y en a. Il y en a de notre côté, nous on est là, on est ici.
Il y a des bateaux et on dirait que c'est le port.
Eh bah c'est super. C'est
des bateaux de pirates, ouais.
Alors vous avez, nous on est juste ici, derrière l'église. En face, il y a un grand monument, une grande construction qui s'appelle comment?
C'est quoi en face?
Le château d'Amboise.
Le château royal d'Amboise. Il y a deux ponts pour traverser la Loire. Pourquoi il y en a deux? Qu'est-ce qu'il y a au milieu?
Des maisons!
Ah bah il y a encore des maisons, c'est vrai! Mais qu'est-ce que c'est que ce morceau de terre où ils ont mis des maisons? On est toujours à Amboise en face?
Oui, du ciment!
De l'autre côté de l'eau, là, il y a quoi?
Une terre entourée d'eau!
Vas-y, dis-le!
Une île!
Excellent! Une île!
L'île d'or!
Eh bien, vous en connaissez des belles choses. Est-ce que vous êtes déjà allé sur l'île d'or?
Oui.
Qu'est-ce qu'on fait sur l'île d'or?
Il y a des jeux.
Il y a des jeux?
Moi, j'étais allée deux fois à l'île d'or. Se baigner à la piscine.
Oui.
Le toboggan piscine.
Et tout au bout, il y a le stade pour les matchs de foot.
Ah ouais.
On fait du sport sur l'île d'or.
Ouais.
Bon. Et il y a un camping. Pour les gens qui viennent en vacances.
Ouais, il y a un parc.
Voilà. Donc l'île d'Or, c'est un endroit très sympa pour se promener en famille, se balader. Donc on a parlé des ponts, on a parlé de l'île d'Or. Et moi, j'aimerais parler maintenant du château. Qui a visité le château d'Amboise?
On a été il n'y a pas longtemps.
Ah, intéressant. Un peu plus de la moitié, à peu près. C'est quoi un château? Vous savez ce que c'est qu'un château? Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous habitez dans un château?
Non.
Oh, bah moi non.
Bah moi qui allais dans le château d'Amboise.
Qui vit dans un château?
Les fées.
Ah, les fées?
Les rois.
Les rois.
Les rois et les princesses.
Les rois et les reines.
Des princesses.
Des princesses. Qui c'est qui fait la bagarre aussi avec des épées? Les chevaliers. Très bien.
Et des pirates.
Ah, c'est sûr. Les pirates ne sont pas dans un bateau.
Non, les pirates, ils vivent pas dans les châteaux.
Bah, c'est clair, voilà. Ils vivent dans un bateau de pirates. Alors, le château d'Amboise qui est devant vous, vous le voyez? Avec la grosse tour, les toitures très élancées, comme si elles montaient. Vous voyez, elles sont toutes pointues, tout est pointu.
Et on dirait qu'ils touchent le ciel.
Oui, exactement. Et bien, ça a été construit à la grande période des châteaux. C'est une période qu'on appelle le Moyen-Âge. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot?
Oui.
Et après, il y a une autre grande période qui est très importante en Touraine, qui s'appelle la Renaissance.
Il y a une bébête.
Oh, c'est tout ça. C'est la nature.
Une bébête.
Est-ce que vous connaissez des noms de rois?
Tu connais les noms des rois?
Oui. François Ier. Excellent. Bravo. Eh bien, c'est génial. Vous savez quoi? François Ier, il a vécu à Amboise, dans le château. Oh, mais j'entends quelque chose dans mon sac. Joséphine, qu'est-ce que tu nous as ramené? Joséphine, elle a une surprise pour vous. Des cloches? Non, c'est pas des cloches. Des œufs de Pâques? Oh non, c'est fini, Pâques. Qu'est-ce que ça peut bien être, Joséphine? Tu nous as fait une surprise. Alors, Joséphine, elle a réussi à se faire prêter la clé de l'église. Qui est derrière vous. Est-ce que vous êtes déjà rentré dans l'église?
Non.
Oui, alors, on va le faire tous ensemble. Et cette église, eh ben, figurez-vous que c'est François Ier, lui-même, roi de France, s'il vous plaît, qui a dit, oui, les habitants du quartier du bout des ponts peuvent construire leur église. Et à partir de la Renaissance, le quartier a eu une église. C'est la construction la plus ancienne du quartier. Elle a plus de 500 ans. Quel âge avez-vous?
4 ans.
Et bien, pour faire l'âge de l'église, il faut rajouter 2 zéros derrière le 5. Oh, c'est énorme.
Moi, j'ai 5 ans.
Voilà, on rajoute 2 zéros derrière le 5.
Moi, j'ai 4 ans.
500 ans, c'est beaucoup.
Moi, j'ai 4 ans.
Allez, Joséphine. On y va, on va rentrer par la suite.
Dans quoi on va rentrer?
Dans l'église.
D'accord. L'église, elle n'est pas ouverte tous les jours. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est cette construction? Est-ce que vous en avez déjà visité? Des petites ou des très très grandes? Il en existe des très très grandes, mais il y en a une à Tours. Et il y en a une à Paris qui est en train d'être réparée. Elle a été brûlée. La cathédrale. Est-ce que c'est déjà un mot que vous avez entendu?
Oui, oui, oui.
Celle de Paris, elle s'appelle comment?
Cathédrale.
C'est Notre-Dame de Paris. Et à Tours, elle s'appelle Saint-Gatien. Les églises ont un nom. Celle-ci, elle s'appelle Notre-Dame du Boudet.
C'est vraiment là-bas.
Oh Dieu, oulala. C'est vrai? Est-ce que ceux qui sont déjà rentrés dans une église, est-ce que vous vous souvenez pourquoi vous êtes rentrés? À quoi ça peut servir cet endroit? Ah, bonne question.
Dit tout à l'heure, Valentine, tu m'as dit, ici c'est quoi?
C'est la maison
de Jésus.
Voilà, alors Jésus, tout le monde ne sait pas qui c'est?
Moi je le sais.
Ah, toi tu le sais. Une église sert aux personnes qui croient en Dieu, qui viennent ici prier. Tout le monde ne croit pas en Dieu et tout le monde donc ne vient pas dans cette construction. Et tout le monde, d'ailleurs, ne croit pas en le même Dieu. Et on peut aussi ne pas croire en Dieu. On peut croire en soi, on peut croire en papa-maman, on peut croire en la nature, on peut croire en tout ce qu'on veut. Mais dans la vie, il y a des événements importants. Et ici, par exemple, il y a deux événements assez festifs. Il y en a un qui concerne les bébés et il y en a un qui concerne les papas et les mamans quand, des fois, ils sont très, très amoureux et qu'ils veulent faire une belle fête avec une belle robe, etc. Vous savez comment ça s'appelle? Ah, j'ai entendu. En fait, dans les églises, les personnes qui sont croyantes viennent se marier. Et pour les enfants, on fait des baptêmes. Oui?
Et ben moi, j'ai une robe de baptême.
Et ben voilà. Cette église, en fait, elle a été à l'extérieur. Vous avez vu, on est descendu un petit peu comme si on allait dans une cave. Et ben en fait, le niveau extérieur est plus haut. On l'a élevé pour protéger l'église qui, à la base, avait les pieds dans l'eau pendant les crues. Parce que quand la Loire, elle déborde, eh ben elle va monter, et puis elle va dépasser les murs et elle va inonder les maisons. Heureusement, ça n'arrive pas souvent, hein. Mais quand ça monte, il faut faire attention. Donc les crues de Loire ont un petit peu abîmé l'église, mais c'est la construction, donc, je vous l'ai dit, la plus ancienne, 500 ans. Et nous, aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une surprise de taille, parce qu'à l'intérieur, on découvre de la pierre, des peintures. Et puis quelque chose qui est très beau, très coloré. Est-ce que vous savez ce que c'est que ces choses-là? C'est des fenêtres.
Des vitraux.
Excellent. Des vitraux. Alors les vitraux, ça sert à décorer, à raconter aussi des histoires. C'est pour ça que des fois, vous avez des petits personnages. Vous avez vu toutes ces jolies courbes, ces jolis dessins?
Dans toi, ils ont un chevalier en pierre.
Et oui, alors ce chevalier-là, c'est une femme. Elle a une belle robe. Sur sa tunique, qui est bleue, il y a un symbole très important. C'est une fleur de lys. Elle porte un nom, cette femme. Elle est très, très connue en France. En fait, elle a sauvé la France.
Elle s'appelle Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Et la fleur de lys que vous avez sur son habit, c'est le symbole du roi de France. Elle a combattu pour le roi Charles VII.
Aussi, à Charles XI.
Alors, Louis XI, son fils. Charles XI, je crois pas. Charles VIII, Charles VII et Louis XI. Ou alors, tu m'en apprends une bonne parce que je ne connais pas ce roi-là. C'est vrai, ils ont des numéros, les rois. François Ier, c'était pour pas qu'on les confonde, mais c'est surtout parce qu'ils se succédaient les uns après les autres et qu'il fallait bien les différencier. Donc on a fini notre petite balade, on va ressortir. Et Joséphine, elle va vous montrer, il y a des marques sur l'église qui montrent que l'eau est montée très 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 haut. En fait, plutôt, on va aller voir si vous les trouvez. On va aller tranquillement ressortir. On va aller sur la façade et on va voir les marques des crues de la Loire.
On a visité quoi là? On est où là?
Dans une église.
Vous étiez jamais rentrée dans cette église?
Non.
C'est joli ou pas?
Oui.
Elle a dit, Lauriane, c'est la statue de qui, là, la dame? Jeanne
d'Arc.
Ah, vous la connaissez?
Et moi, j'étais déjà y allée avec papy et mamie.
D'accord.
Je la connais. Et puis, ma mère et mon père, ils ont déjà fait son mariage ici.
Monsieur Kerner. Wow, joli, monsieur Kerner.
Ah, regardez, là. Nous, on était sous l'eau. Donc, l'église, à l'intérieur, vous voyez, elle descend. Donc, l'eau, elle allait juste.
C'est quoi les traits là qu'il y avait sur l'église? C'est où est-ce qu'elle est montée la Loire?
Oui.
Ah, c'est ça, hein.
Alors, vous allez me dire si vous savez où est cette chose.
Un voile.
Ah. Alors, c'est un voile. Alors, on a le château. Ah, rigolo ça. La tour Eiffel.
C'est celle-là.
C'est ça. Oh. Vous l'avez trouvée?
Oui. C'est pour tourner autour.
Alors, c'est pour tourner autour. Alors là, t'as carrément raison. C'est un rond-point, en fait, à la base. Et mais sur le rond-point, qu'est-ce qu'ils ont mis?
Une tour Eiffel.
Alors, c'est très drôle ce que vous dites. La tour Eiffel, elle est où, la tour Eiffel, la vraie?
À Paris.
Elle est là?
À Paris.
Moi, la tour Eiffel du bout des ponts, j'adore. Hein. Franchement...
Moi, j'ai jamais monté en haut.
La tour Eiffel du bout des ponts. Et vous savez quoi? C'est très drôle parce qu'elles ont un point commun. Alors, elles ont même deux points communs. La forme, d'abord, en pointe. Cette sculpture est en pointe, vous voyez, c'est vraiment très élancé, puis il y a un pic au bout, en forme de pointe. Le deuxième point commun, c'est le matériau. Est-ce que vous savez en quoi la tour Eiffel est faite?
En fer.
Ah non, pas alors.
En métal.
En métal.
Très, très bien, en métal. Et elle est très ancienne, la tour Eiffel.
Parce qu'à Paris aussi, ça y est arrivé la guerre.
Ouais. Cette construction-là est récente, elle est aussi en métal. Vous voyez, c'est un grand tube en acier, très solide, mais sur lequel on a mis des petites choses rigolotes. Qu'est-ce qu'on a mis dessus? Alors déjà, est-ce que vous savez son nom, son vrai nom, à part la tour Eiffel du bout des ponts?
Non.
Ça s'appelle la tour de l'or. Ah, l'or, comme l'île d'or.
Oh, il y a
tiens.
De l'or là.
Oh. Il y a de l'or blanc. Oh, alors pourquoi ils ont mis blanc? L'or, c'est pas jaune?
Si,
l'or, c'est jaune. Cette tour, pourquoi elle a été construite? D'abord, pour ressembler à un autre monument d'Amboise que vous connaissez peut-être. Regardez.
Non,
qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous savez comment ça s'appelle, ça?
Non.
Vous l'avez jamais vu?
Moi, si.
Alors, c'est pas très loin d'ici, c'est dans la forêt d'Amboise. Ça s'appelle une...
Pagode.
Très bien. C'est la pagode de Chanteloup à Amboise, dans la forêt, là, quand on va vers la Croix-en-Touraine, Bléré. Il y a cette construction. Et pour rendre hommage à la pagode de Chanteloup, et un peu à la tour Eiffel aussi, je vous avoue, ils ont décidé de faire la tour de l'or blanc. Mais, à l'intérieur, en fait, il y a des morceaux de verre. Regardez. Là, vous ne pouvez pas le voir parce qu'on est très loin. Mais sur cette photo, il y a plein de morceaux de verre, comme des morceaux de vitrail, de couleurs. Qu'est-ce que vous voyez comme couleur principale?
Vert, rouge.
En fait, il y en a trois. Il y a rouge, il y a blanc et il y a rose. Ça correspond aux trois couleurs d'une boisson pour les adultes.
Quoi?
Ça correspond aux couleurs du vin.
Mais on a le droit d'en boire.
Ah non, hein? Ah non, non, non.
Eh bien, c'est du vin, de toute façon.
Tour de l'or blanc, tour Eiffel du bout des ponts, en métal avec du verre pour les vignerons. C'est parti pour la nouvelle découverte, on va se mettre en rang. Nous allons dans un endroit qu'on a construit parce qu'on a fait une invention géniale qui s'appelle le train. Alors, où va-t-on?
Au train. Au rail.
Au rail? C'est quoi l'endroit où on prend le train?
La gare.
La gare.
La gare.
C'est parti.
Qu'est-ce qu'on a vu là? C'est quoi?
C'est une tour.
Une tour? Comment elle s'appelle? Tu te souviens pas?
C'est pas grave.
Je suis déjà allée dans un camp pour le rendez-vous de ma maman. Voilà, il y a une framboise.
Oh non, ils sont très gentils les doudous. Ils ont des sages.
Mais lui, il aime bien faire des bêtises dans ma maison.
Oh.
Mais ma maison, elle habite en Amboise.
Ah bon?